J'ai des taches pigmentaires.
J'ai des hémorroïdes.
Je fais des pets vaginaux.
Je ronfle beaucoup.
J'ai des petits problèmes de fuite urinaire.
J'ai mauvaise haleine.
J'ai une mycose. J'ai des verrues.
J'ai des problèmes d'érection.
Consulte, c'est le podcast d'Easy Para qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien ? Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré à la mauvaise haleine, également connue sous le nom d'halitose. La mauvaise haleine est un problème courant qui peut affecter n'importe qui. Et pour parler de ce problème, je serai accompagnée aujourd'hui de Virginie Monet-Corti, professeure des universités et praticienne hospitalière, chef du service de parodontologie de l'université Aix-Marseille et ancienne présidente de la Société française de parodontologie et d'implantologie orale. Bonjour docteur.
Bonjour.
La mauvaise haleine peut être particulièrement gênante pour les personnes qui ont une interaction sociale ou professionnelle. Elle peut même entraîner une perte de confiance en soi. Dans cet épisode, nous allons parler des causes de la mauvaise haleine, des traitements disponibles et des mesures préventives que vous pourrez prendre pour maintenir une haleine fraîche. Alors docteur, première question déjà, quelle est la différence entre mauvaise haleine et halitose ? Parce que halitose, c'est pas vraiment le terme connu du grand public.
Exactement. En fait, c'est le terme scientifique qui désigne la mauvaise haleine, et ce sont donc des synonymes. Puisque l'étymologie de l'halitose est assez intéressante, si on va jusque-là, c'est un mélange d'étymologie de racines grecques et latines. Donc il y a un mot halitus qui veut dire haleine, et un mot, donc celui-ci est d'origine latine, et l'autre c'est d'origine grecque, c'est osis, c'est la maladie. Soit, si on dit littéralement ce que ça veut dire, c'est une maladie de l'haleine, une haleine malade.
Alors, qu'est-ce qui va causer une mauvaise haleine, finalement ? À midi, j'ai mangé un aioli, je vais sentir l'ail tout l'après-midi, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va être récurrent.
Exactement. Donc, c'est vrai qu'on va distinguer les diverses origines. Qu'est-ce qui cause, en réalité, la mauvaise haleine ? Les scientifiques se sont penchés sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et en fait, ce sont des composés sulfurés volatiles. Alors, vous vous rappelez, le soufre, hein, sulfuré, c'est l'odeur de l'œuf pourri. Hein, en gros, c'est ça qu'on retrouve. Hein, ou quand on va au bord d'un volcan où il y a du soufre, eh bien, en fait, cette odeur est très, très désagréable pour l'être humain. Et c'est la première cause en fait, d'halitose vraie, c'est la présence de ces composés sulfurés volatiles. Ces composés, ils sont issus de la dégradation de divers produits qui sont dans la bouche en temps normal, des protéines qui sont dans la salive, des cellules mortes, parce que vous savez que notre organisme se renouvelle sans cesse, parfois du sang, mais aussi des bactéries, en fait, hein, qui sont la majeure partie des productrices de ces composés malodorants. Alors, en raison de cette volatilité, c'est pour ça qu'on les appelle volatiles, bien, ces composés ont un fort potentiel odorant. D'autres composés organiques peuvent générer ou contribuer à une halitose vraie. Parmi eux, on retrouve notamment la putrescine, la cadavérine et certains composés aromatiques qui sont en fait des acides gras volatiles qu'on retrouve dans les parfums pour donner des bonnes odeurs, mais qu'on retrouve aussi dans la mauvaise haleine, qui est un vrai parfum complexe malodorant.
Mais est-ce que ça veut dire que quand on a mauvaise haleine, on a tous à peu près la même odeur ?
Alors, c'est une très bonne question. Bien non, sinon on s'ennuierait. Hein. Et chacun va pouvoir créer son propre parfum.
Sympa.
Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à identifier d'emblée une mauvaise haleine dissociée de ce que vous disiez tout à l'heure, d'un aioli ou d'un aliment qu'on va manger et qui ponctuellement peut donner une haleine, une odeur, mais pas une mauvaise odeur forcément.
D'accord, mais alors du coup, est-ce qu'il existe des facteurs qui vont augmenter le risque de développer une mauvaise haleine ?
Alors oui, clairement, ils ont été identifiés, alors peut-être pas tous, hein, mais ce sont toutes les situations physiologiques. Physiologique, c'est en temps normal, hein, quand on est en état de santé, ou pathologique, quand on est malade, qui favorisent le développement d'espèces bactériennes particulières, celles qui se développent le mieux en l'absence d'oxygène. Parce qu'en fait, on a dans la bouche beaucoup d'oxygène, puisqu'on respire en permanence, mais il y a plein de petites niches aussi écologiques qui sont bien cachées, bien protégées, et notamment, on le verra un petit peu plus loin, dans certaines pathologies bucco-dentaires. Et ces bactéries qui aiment bien être à l'abri de l'oxygène, ce sont celles qui sont les plus grosses productrices de ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les fameux composés sulfurés, volatile. Donc, il y a des situations dans lesquelles, en fait, la cavité buccale va les favoriser. Par exemple, la mauvaise haleine du matin.
Ouais.
La mauvaise haleine du matin, ben, elle existe, c'est vrai. C'est pas forcément pathologique, mais en fait, c'est justement le résultat d'une augmentation du métabolisme bactérien, une réduction de la salive et une sécheresse buccale, surtout si on a le nez bouché et que l'on respire par la bouche, durant la nuit. Et en fait, toute cette physiologie un petit peu ralentie durant la nuit fait qu'au petit matin, avant d'avoir bu un verre d'eau ou pris son petit déjeuner, on a la présence de ces bactéries en quantité, mais après on se brosse les dents, on mange et ça passe. Un autre exemple, la langue saburale. La langue, vous savez, qu'on dit chargée, blanche, qui est caractérisée par la présence d'un enduit blanchâtre qui recouvre le dos de la langue et qui est constitué des cellules mortes, des débris alimentaires, mais aussi ces fameuses toujours bactéries qui sécrètent ces composés sulfurés. La principale cause de la halitose intraorale, c'est vraiment une mauvaise hygiène bucco-dentaire, une alimentation trop riche en matières grasses. On dit aussi parfois le vieillissement et surtout les maladies parodontales qui contribuent à l'apparition de cette langue saburale. Donc c'est vraiment un point important sur lequel je pense qu'on reviendra. Mais ensuite, évidemment, les facteurs qui vont prédisposer ou qui vont augmenter la mauvaise haleine, c'est la présence des pathologies bucco-dentaires. Et on a deux grandes familles de pathologies bucco-dentaires qui sont génératrices de mauvaise haleine. Ce sont les maladies des gencives, donc les maladies parodontales, vous savez, celles qui font déchausser les dents. Et puis on a aussi les caries qui vont aussi contribuer, si elles ne sont pas soignées bien évidemment, à augmenter les composés sulfurés volatiles chez ces patients-là. Voilà. Donc si on compare un patient en bonne santé bucco-dentaire, il peut avoir effectivement ponctuellement mauvaise haleine s'il oublie de faire des gestes d'hygiène bucco-dentaire adaptés. Mais des sujets malades au niveau de leurs gencives ou qui ont des caries pas soignées, ils seront évidemment sujets à avoir une mauvaise haleine.
Bon, vous m'avez rassurée déjà sur le fait que tout le monde a mauvaise haleine le matin.
Oui, alors plus ou moins, hein, bien sûr. Ça dépend aussi après de la consommation la veille, mais on va en reparler aussi. Il y a des choses qui vont les modifier. Mais clairement, la salive contribue à nettoyer la bouche en permanence, ça on le sait. Donc quand on dort la nuit, ben, évidemment, on a moins de salivation, on parle plus, on ne mastique plus. On a des bactéries qui sont toutes contentes pour ça, parce que du coup, elles vont se développer tranquillement. Et puis, je vous ai dit, en plus, si on respire la bouche ouverte, ça rajoute une sécheresse buccale qui fait que ces bactéries-là sont ravies de développer leurs composés sulfurés volatiles.
Alors justement, du coup, vous parliez de la salive. Comment la salive va pouvoir affecter notre haleine, finalement ?
Ben, en fait, clairement, ce n'est pas la composition de la salive hein, qui va affecter la mauvaise haleine. C'est plutôt l'absence de salive qui augmente la halitose. Et dans sa composition, la salive, elle a plutôt des facteurs bénéfiques parce que ce sont des facteurs qui vont réguler en fait le microbiote oral. Et la salive, elle est pleine de petites astuces pour moduler et en fait modérer aussi l'accroissement bactérien. Donc la salive, non, c'est plutôt notre allié, quelle que soit sa composition. Et puis, ben, si on en manque, on a aussi des moyens de la remplacer ou de l'activer et on pourra aussi en reparler.
Alors oui, on parle de la salive, on a parlé de l'hygiène bucco-dentaire, on y reviendra. Mais il y a aussi un lien fort avec la digestion et l'hygiène alimentaire aussi.
Voilà. Alors, effectivement, on n'a pas abordé en détail cette notion de mauvaise haleine, mais il y a deux origines dans la mauvaise haleine. La mauvaise haleine dont on parle aujourd'hui, c'est la mauvaise haleine d'origine orale. Mais évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques cas de mauvaise haleine d'origine gastrique, donc de l'estomac, mais aussi, on l'a vu, d'origine de la sphère ORL et pulmonaire. Donc, évidemment, l'estomac, surtout s'il est malade et qu'il présente des ulcères, vous savez que depuis quelques temps, on sait que c'est une infection à Helicobacter pylori. Donc, ce sont des bactéries qui vont sécréter qui sont capables, en fait, d'avoir un microbiote associé qui va sécréter des composés sulfurés volatiles. Mais aussi le poumon et le nez par des rhinites, des angines, des sinusites, des bronchites et voire certains cancers du poumon qui vont pouvoir générer aussi une odeur particulière, mais qui ne va pas être essentiellement véhiculée par la bouche, mais aussi par le nez. Et l'air expiré par le nez aura aussi une mauvaise odeur, alors que ce n'est pas le cas de la mauvaise haleine qui est liée rien qu'à la cavité buccale. Troisième grand groupe de liens avec le corps, ce sont aussi les maladies générales, comme le diabète non équilibré, oui, mais aussi la cirrhose du foie, et la prise de certains médicaments. Certains antihypertenseurs, antidépresseurs, traitements anti-allergiques et tout peuvent engendrer aussi cette mauvaise odeur. Je répète, elle est aussi alors à ce moment-là perçue par l'expiration par le nez et la bouche en même temps. Donc c'est ça qui va nous la faire différencier. Sachez aussi qu'elle ne représente que 10% des halitoses. Donc tout le reste est vraiment lié à la bouche.
D'accord. Et est-ce que ça peut être un symptôme aussi d'une maladie plus grave ?
Oui.
Un prémisse, quoi.
Oui. Et c'est très rare, mais l'halitose peut être le symptôme de maladies plus graves, comme le cancer du poumon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cancer de l'estomac, mais aussi un diabète mal équilibré. C'est assez connu aux temps anciens, avant de faire une glycémie, on sentait l'haleine des patients diabétiques. Il y avait cette odeur de pomme rainette qui est caractéristique du patient qui est mal équilibré au niveau de son diabète. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise odeur, la pomme rainette, hein, mais en tout cas, c'est un signe vraiment pathognomonique d'un problème de glycémie. On a aussi des animaux qui sont dressés pour sentir l'haleine de certains patients pour dépister le cancer du poumon. Ça, c'est très récent et c'est très novateur. Donc, ça veut dire que le chien est beaucoup plus sensible à l'odeur que nous, hein, donc évidemment. Mais en tout cas, ça prouve qu'il y a vraiment des différences au niveau des odeurs. Il faut identifier ces patients-là, nous, en tant que praticiens chirurgiens-dentistes, parce que s'il se présente une mauvaise haleine qui n'est pas d'origine dentaire, bien sûr, on va les adresser chez leur médecin tout de suite pour éviter qu'il y ait un diagnostic qui soit plus tardif. Il faut penser aussi que les patients qui ont des reflux gastro-œsophagiens, qui ne sont pas donc des maladies graves, ou des vomissements fréquents, et là on peut penser aussi aux tous les troubles du comportement alimentaire, avec la polyphagie, l'anorexie, mais aussi les boulimies. Les patients qui ont eu des sleeves, qui ont été opérés, voilà, ils ont des vomissements fréquents. Et eux aussi peuvent aussi venir nous consulter parce qu'ils ont une mauvaise haleine qui les dérange énormément. Et là, à ce moment-là, c'est plus de notre recours.
D'accord, mais c'est intéressant cette notion de détection de maladie, et ça rappelle aussi que voilà, il faut quand même consulter un professionnel de santé, un dentiste, au moins une fois à deux par an. Maintenant, on va parler des traitements, parce que oui, ça se soigne la mauvaise haleine, alors de plusieurs façons, mais déjà aussi, on va commencer par l'alimentation.
Alors, comme on a dit qu'en fait, il y a 10% des mauvaises haleines qui sont d'origine gastrique, on pourrait imaginer qu'en fait, non, l'alimentation n'a pas un effet et un impact sur la cavité orale. Alors, les conseils alimentaires, de toute façon, quand on est chirurgien-dentiste, on doit les donner pour améliorer en général l'état de santé du patient et puis sa cavité buccale. Pour aller améliorer une haleine mauvaise d'origine extra-orale, on a parlé de l'estomac par exemple, si effectivement on pense à l'ail et à l'oignon cru, puisqu'on est parfois amené à en consommer, là on pense.
C'est très bon pour la santé.
Exactement, au demeurant. Et donc, moi, je dirais aussi que ce n'est pas une mauvaise haleine, forcément. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est ponctuel. On peut penser aussi au ventre vide chez le dénutri. Et ça, il ne faut pas oublier non plus, parce que là, c'est plutôt plus inquiétant. Parce que le ventre vide, il exhale quand même une odeur particulière. Et il faut se méfier chez un patient qu'on identifierait comme étant plutôt mince, voire même avec une IMC un peu inférieure. Il faut penser aussi à poser la question de sa manière de se nourrir. Mais il y a aussi un autre facteur sur lequel on pourrait revenir, c'est sur le fumeur.
Ah oui, évidemment.
Voilà.
On n'en a pas parlé jusqu'à présent.
Voilà. Et donc, on parle des conseils alimentaires, oui, d'accord, mais pas tant que ça pour l'effet sur l'halitose vraie. Mais le fumeur, oui. Et le fumeur, c'est un bon moyen de lui donner envie d'arrêter de fumer. Parce que souvent, quand on détecte en fait une grosse consommation de tabac ou d'autres substances, puisque vous savez que ce n'est pas la seule substance qui est fumée, c'est souvent lié à une mauvaise haleine. Et c'est souvent lié aussi à des déchaussements dentaires, à des gros problèmes bucco-dentaires. Et le patient, c'est souvent le bon moment pour le motiver. Si en plus, il ne sent pas bon de la bouche et qu'il est en train de perdre ses dents, clairement, il a envie que ça s'arrête. Et nous, on joue beaucoup aussi sur ça pour leur donner envie de cesser le tabac. Voilà. Souvent, les gens le savent, mais en fait, ils ne veulent pas l'entendre. Voilà.
Oui,
et le fumeur, dès qu'on commence à aborder ce sujet, il devient tout rouge et il sait que ça en parle de lui. Ou elle. Hein, voilà. Alors après, je dirais que l'alimentation en tant que percée, si on parle du problème gastrique, oui. On répète, si c'est qu'une odeur ponctuelle, ce n'est pas un souci. Hein. Mais par contre, il faut penser aussi que tout ce qui va rester comme alimentation dans la bouche, et là, on va aborder un sujet qui est très important, c'est tout ce qui va se coincer entre les dents.
Oui.
Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a deux composés organiques qui s'appellent la putrécine et la cadavérine.
J'aime beaucoup ces mots.
Voilà, ça fait rêver.
Ils sont très évocateurs, du coup.
Et du coup, en fait, c'est souvent une alimentation protéinée qui est coincée entre les dents, qui n'est pas nettoyée par des brossettes interdentaires, par exemple, qui va rester 2-3 jours. Et là, c'est le succès garanti. Les mouches peuvent tomber.
Alors, on a parlé des fumeurs, on a parlé de plusieurs cas. On n'a pas parlé des enfants. Est-ce que les enfants peuvent aussi avoir mauvaise haleine en dehors des périodes où ils sont sous médicaments, hein?
Alors, les enfants, les petits humains, on va dire, sont soumis au même problème, puisqu'ils vont avoir la flore bactérienne dont je vous ai parlé. Le microbiote, c'est à peu près le même dès qu'il commence à y avoir des dents dans la cavité buccale. Et comme on a bien compris qu'en fait la première cause c'est quand même la présence de bactéries sur les gencives, sur la langue et sur les dents, les enfants doivent se nettoyer la bouche aussi bien que les adultes pour éviter d'avoir mauvaise haleine. Cependant, ils ont aussi quelques périodes de perturbations hormonales, puisque à la préadolescence puis à l'adolescence, les perturbations liées en fait à la présence de certaines hormones de la reproduction vont leur rendre la salive un peu moins efficace. Et puis surtout, c'est le stade psychologique que disait Dolto, je crois que c'était le stade du homard, en fait, qu'ils n'aiment pas se laver et qu'ils n'aiment pas se laver partout, donc y compris dans la bouche. Ils ont souvent des appareils orthodontiques. Et c'est vrai que cette mauvaise haleine, aussi à l'âge de l'adolescence, peut aussi leur donner un handicap social selon l'importance que ça a. Voilà. Donc les enfants, oui, il faut les aider comme les grandes personnes en prévenant toutes les maladies de la cavité buccale liées à la présence des bactéries. Ces bactéries qui font aussi les composés sulfurés volatiles. Donc il faut les prévenir, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de caries, qu'il n'y ait pas de maladies des gencives et qui sont toutes deux causées par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc on est dans un cercle vertueux ou un cercle vicieux. C'est que de toute façon, tant qu'on ne mettra pas en place une hygiène bucco-dentaire adaptée, on pourra avoir mauvaise haleine.
Mais du coup, que ce soit pour les enfants ou les adultes, au final, qui on va voir en premier ? Est-ce qu'on va voir son dentiste ? Est-ce qu'on va voir son généraliste ?
Alors moi, je pense que le dentiste, ça vaut la peine, parce que comme on a vu que 10% seulement de la mauvaise haleine était liée à une cause générale, le dentiste, il a quand même 90% de chances de trouver une origine buccale. Donc moi, je pense qu'il faut commencer par cette démarche. Et évidemment, comme dans notre formation initiale de dentiste, on a la formation sur la mauvaise haleine, s'il ne trouve pas la cause intraorale, c'est au dentiste d'adresser chez le généraliste ou chez le médecin spécialiste, si vraiment il identifie tout de suite une cause gastrique ou pulmonaire, mais enfin, au moins chez le généraliste. Donc je pense que vraiment, la première approche, ça serait celle-ci. Et comme, vous le savez, la règle, c'est de consulter son chirurgien dentiste une fois par an minimum, même si on n'a rien,
oui.
Ça nous permettrait quand même de dépister beaucoup, beaucoup de soucis et puis de mettre en place des stratégies pour éviter que ça empire ou voire même, comme on l'a dit, traiter, puisque ça se traite.
Absolument. Alors, comme je le disais, on a sondé notre communauté, on leur a demandé de nous envoyer leurs questions. On a une première question d'Emmanuel, 50 ans.
J'ai souvent une haleine acide, un peu comme du vinaigre. Est-ce que ça peut être de l'halitose ?
Ah, bonne question. Non. Non, pas à proprement parler. C'est plutôt un mauvais goût dans la bouche. En fait, c'est ça, souvent, les patients aussi confondent. Ils me disent, et nous, quand on les interroge justement dans un bilan parodontal, par exemple, on leur dit, est-ce que vous avez un mauvais goût dans la bouche ? Et s'ils disent oui, on va plus loin. Et on cherche aussi ce goût de métal qui décrit un peu le saignement des gencives, des choses comme ça. Mais l'acidité n'est pas une halitose. L'acidité, d'accord, ça peut être une cause d'halitose. Et c'est souvent le reflux ou les choses comme ça. Ou même des bactéries ou des salives qui sont plus acides que d'autres.
Allez, deuxième question de Julie, 40 ans.
Bonjour, ma question est la suivante. Quand on sent mauvais de la bouche, est-ce qu'on est forcément au courant ?
C'est vrai que pas toujours le patient ou la personne est consciente de sa mauvaise haleine. Mais j'ai quand même quelques doutes. Et souvent, les patients aussi se doutent. Et donc, c'est pour ça qu'on interroge... Enfin, moi, j'ai tendance à dire, interrogez votre entourage, toujours pareil, hein, un entourage proche qui vous veut du bien. Et ça libère la parole. Et moi, je le vois en consultation. Je pose la question systématiquement. Avez-vous l'impression d'avoir mauvaise haleine ? Oui, non. Et ceux qui sont accompagnés de leurs parents ou compagnons, voilà. Et on sent qu'il y en a un qui dit mais si, dis-le. Donc, c'est une espèce de libération de la parole. Donc, Moi, à mon avis, beaucoup de gens le savent, mais l'occultent, parce qu'ils pensent que ça ne se soigne pas. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Oui, ça soigne, donc parlons-en. Et justement, n'ayons pas honte, c'est un tabou, certes, mais devant un professionnel de santé ou quelqu'un très proche, on peut effectivement interroger de temps en temps, est-ce que tu penses que j'ai mauvaise haleine ? Après, une autre astuce que je donne, c'est de souffler dans les paumes de ses mains. C'est son propre nez.
Oui.
Voilà. Pour vérifier si c'est une halitose vraie, donc ce n'est pas un mauvais goût, il faut, si vous voulez bien, expirer doucement l'air par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, puis par le nez, pour détecter si éventuellement c'est lié à quelque chose qui est externe à la bouche, et ça à une distance d'environ 10 cm du nez d'une personne de confiance. Alors, peut-être pas votre amoureux ou votre amoureuse.
Allez, on prend une troisième question de Marie, 32 ans.
J'ai un diabète de type 2. Comment traiter mon halitose ?
En fait, d'abord, bien évidemment, je vous conseillerais de vérifier que votre glycémie est équilibrée, en fait, en tout cas, votre hémoglobine glyquée est en dessous des valeurs seuil, pardon. Mais de toute façon, qu'on soit diabétique ou pas, il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, et je dirais chez le diabétique, draconienne, parce qu'on sait que malheureusement, vous réagissez beaucoup moins bien aux infections, quelles qu'elles soient, aux agressions bactériennes, par fragilité liée à cette pathologie. Mais là aussi, ce n'est pas inéluctable. Ce n'est pas parce qu'on a un diabète, s'il est équilibré, qu'on doit perdre ses dents, qu'on doit avoir mauvaise haleine, qu'on ne doit pas faire de sport, enfin, qu'on est gêné dans la vie quotidienne. Au contraire, il faut aussi aller voir votre dentiste, et des rendez-vous peut-être plus réguliers, tous les 6 mois, sont préconisés.
Oui, voilà, des rendez-vous réguliers chez le dentiste pour régler votre problème de mauvaise haleine. Effectivement, ce sera évidemment ce qu'on vous conseille. Allez, on va passer à la dernière partie de notre épisode aujourd'hui, consacré à la mauvaise haleine, je le dis depuis le départ. Et on va parler de l'hygiène bucco-dentaire. Donc, pour ceux qui ont des soucis de mauvaise haleine, mais pas que, pour tout le monde.
Oui, pour tout le monde. Donc, la meilleure prévention, on l'a bien compris, hein, avoir mauvaise haleine, c'est pas une fatalité. Donc, évidemment, prévenir, c'est mieux que guérir. Consulter votre chirurgien dentiste, c'est vraiment le bon professionnel de santé pour guérir j'appelle ça un handicap social, parce que parfois, moi, je vois mes patients arriver avec la main devant la bouche et très, très handicapés par ce petit symptôme, parce que franchement, il est facile à résoudre. Et les conseils, parce que là, vraiment, il faut comprendre que l'ennemi à abattre, c'est le microbiote avec certaines bactéries. Bon, on ne peut pas les distinguer au microscope dans la bouche des patients. Oui. Donc, comme vous disiez, la routine, c'est le mieux, c'est le plus important. Pratiquer une hygiène bucco-dentaire avec un matériel et des produits adaptés. Quand je dis produits, donc de matériel, c'est une brosse à dents toute simple, mais des brossettes interdentaires, vous avez entendu. Tout ce qui se coince entre les dents, ça ne part pas avec la brosse à dents normale. Donc, il faut avoir des adjuvants, et les brossettes interdentaires font partie des adjuvants quotidiens à utiliser. Et des dentifrices et bains de bouche à effet antiseptique pour aider à éliminer ou désorganiser ou perturber ces fameuses bactéries responsables de la production des composés sulfurés volatiles à l'origine de l'halitose. Bon, évidemment, en plus de la cadavérine et de tout ça qui sont aussi des aliments organiques, hein, enfin des morceaux organiques, mais vraiment, quand on met en place ce protocole de manière bicotidienne, puisqu'on sait que depuis l'OMS travaille là-dessus aussi, il faut se brosser les dents, enfin il faut nettoyer sa bouche 2 fois par jour, matin et soir. Vous avez vu que le soir, c'est très important, puisque c'est la nuit que tout se passe.
Oui. Hein.
Et si on se brosse les dents et qu'on passe les brossettes et qu'on utilise un bain de bouche et un dentifrice adapté, bien évidemment, le matin, on aura quand même mauvaise haleine, mais moins. Et puis le matin, quand on se lève, même avant le petit déjeuner, on peut aussi se nettoyer la bouche. Donc vraiment, ce sont des gestes simples qu'on doit enseigner à nos enfants de tout petit. Et puis à valeur d'exemple, de toute façon, nos enfants, nous voyant faire les choses, ils vont avoir envie de les refaire. Donc il suffit simplement de le faire devant eux et les aider de temps en temps pour qu'ils soient plus efficaces.
Et docteur, dernière chose, on n'a pas parlé du nettoyage de la langue. Est-ce que ça peut avoir un effet positif sur la mauvaise haleine ?
Oui, oui, certainement. Puisque vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette fameuse langue saburale. Alors, si la langue va bien, il ne faut peut-être pas insister trop. Mais quand on a une langue avec cet enduit blanchâtre dont je vous ai parlé, un nettoyage mécanique du dos de la langue est préconisé avec la brosse à dents, de manière de toute façon à éliminer cet enduit lingual qui est présent. Il faut aussi penser que la plupart du temps, quand on soigne une parodontite, vous savez, c'est cette maladie qui fait déchausser les dents, on a pratiquement 100% de résultats positifs sur le traitement de la mauvaise haleine. Donc ça aussi, ce sont des traitements qui doivent être mis en place parce qu'ils ont un impact, en fait, c'est à double détente sur ce symptôme qui est très désagréable. Et le traitement de la gingivite aussi, puisque cette gingivite, elle est une inflammation des tissus parodontaux liée à la présence des bactéries en quantité excessive, en quantité et en qualité. Et donc, malheureusement, dans la qualité, comme je vous ai dit, il y a ces fameuses bactéries qui font des composés sulfurés volatiles. Et ils sont encore plus nombreux dans la parodontite. C'est vraiment encore plus spectaculaire dans la parodontite. Les patients disent tous, même s'ils ne s'étaient pas aperçus au départ qu'ils avaient une mauvaise haleine, qu'après le traitement, ils s'en sentent revivre au niveau de leur haleine.
D'accord.
Voilà. Donc, ce sont des conseils vraiment très simples et qui pourraient nous permettre d'être bien dans notre bouche.
Bien dans votre peau et bien dans votre bouche. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne conclusion de cet épisode de podcast qui était consacré à la mauvaise haleine. Alors, on l'a dit, hein, n'hésitez pas à aller consulter votre dentiste. Voilà, ou votre généraliste, si vous avez des doutes, si les symptômes persistent surtout. Et puis, des solutions existent, elles sont nombreuses, on vous en a parlé. Docteur Virginie Monet-Corti, merci de votre participation à cet épisode.
Merci.
Et on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par easypara.fr, votre parapharmacie en ligne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. À très vite.